From the conference center at Temple
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir des conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques.
This broadcast is furnished
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Thomas S. Monson,
président de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you to the first general session of the
Nous souhaitons la bienvenue à la première session de la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous saluons les autorités générales assises sur l'estrade au centre de conférence, dans les lieux d'appoint au tabernacle, à l'Assemblée Hall, ainsi que les présidents généraux de la Société de secours, des jeunes gens, des jeunes filles, de l'école du dimanche et de la primaire qui assistent à cette conférence. Nous souhaitons une particulière bienvenue aux personnalités du gouvernement, du monde de l'enseignement et aux dirigeants civils qui sont présents parmi nous. Nous remercions les propriétaires, les exploitants des nombreuses chaînes de télévision et stations de radio, des réseaux de diffusion par satellite et fournisseurs d'accès à l'Internet qui offrent leur concours à titre de service public, afin de transmettre cette conférence à un vaste auditoire dans de nombreuses régions du monde. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mark Wilberg, avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « How wondrous and great » et va maintenant interpréter « Brillante étoile, étoile du matin ». Ensuite, Lynn Mickelson des 70 fera la prière d'ouverture.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
notre Père Céleste bien-aimé, tandis que nous sommes assemblés à travers le monde au début de cette conférence de ton Église, nous t'exprimons notre gratitude pour le privilège qui est le nôtre de pouvoir recevoir la direction de prophètes, voyants et révélateurs. Nous sommes reconnaissants d'être assemblés dans une assemblée solennelle en ce jour pour soutenir et exprimer notre amour à toi, à ton égard et envers ton prophète pour pouvoir suivre les commandements et les conseils de celui que tu as choisi. Nous te sommes reconnaissants pour le rétablissement de ton évangile et de nombreuses bénédictions qu'il nous donne à nos familles sur cette terre. Nous te prions pour nos familles et particulièrement pour les mères, pour que sous ta direction, elles puissent être soutenues et soutenir et encourager tes enfants. Nous sommes reconnaissants de ton esprit qui a pu accompagner ceux qui ont préparé cette conférence. Nous te prions afin que nous puissions être réceptifs à ces leçons qu'ils ont préparées pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour Président Monson et ses conseillers et les 12. Nous prions pour leur bien-être et pour qu'ils soient dirigés. Nous prions pour ceux qui seront appelés et soutenus aujourd'hui, pour qu'ils ressentent ton soutien, tes encouragements. Et nous invoquons tes bénédictions sur toute cette conférence et sur le développement de cette session. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Président Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, va maintenant présenter les autorités générales des 70 d'interrégions et les présidences générales des auxiliaires de l'Église pour un vote de soutien. Après les soutiens, nous entendrons Russell M. Nelson du Collège des 12 apôtres. Ensuite, le chœur chantera au grand prophète. Président Uchtdorf.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, le président Monson m'a demandé de traiter les affaires de l'Assemblée solennelle pour laquelle nous sommes réunis. C'est une occasion très importante pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours partout dans le monde. Depuis le 10 octobre 1880, quand John Taylor a été soutenu pour succéder à Brigham Young comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église, chacune de ces occasions a été appelée Assemblée solennelle du corps de l'Église pour exprimer la voix de l'Église. Nous allons voter par collège et groupe. Où que vous soyez, vous êtes invité à vous lever quand cela vous est demandé et à exprimer en levant la main si vous choisissez de soutenir les personnes dont les noms vont être présentés. Vous ne devez voter que lorsqu'il vous est demandé de vous lever. Les autorités générales affectées au tabernacle et à l'Assembly Hall à Temple Square observeront le vote dans ces lieux. Dans les centres de pieux, un membre de la présidence de pieux observera le vote. S'il y a des votes opposés, nous demandons à en être avertis. Nous allons maintenant procéder aux affaires de cette assemblée solennelle. Que la première présidence se lève. Il est proposé que la première présidence soutienne Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Seulement ceux qui se lèvent. Merci. Il est proposé à la première présidence de soutenir Henri Benyon Eyring comme premier conseiller et Dieter Friedrich Uchtdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. Il est proposé à la première présidence de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des douze apôtres. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. Il est proposé à la première présidence de soutenir comme membre du Collège des douze apôtres Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darlene H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook et D. Todd Christofferson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Il est proposé à la première présidence de soutenir les conseillers dans la première présidence et les douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Nous demandons à la première présidence de bien vouloir se rasseoir. Nous invitons Elder Christofferson à prendre sa place au sein du Collège des douze, maintenant.
The members of the Quorum of the Twelve Apostles,
que les membres du Collège des douze apôtres se lèvent, s'il vous plaît. Il est proposé au Collège des douze apôtres de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des douze, comme ils ont été présentés et soutenus par la première présidence. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Vous pouvez vous asseoir. Que les membres des premiers et deuxièmes collèges des 70 et l'épiscopat président se lèvent. Il est demandé et proposé aux membres de ces collèges des 70 et à l'épiscopat président de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des douze, comme ils ont été présentés et soutenus par la première présidence. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Vous pouvez vous asseoir. Que les personnes suivantes se lèvent là où elles se trouvent, dans le monde entier. Tous les 70 d'interrégion, tous les patriarches ordonnés et tous les membres des collèges de grands prêtres et d'anciens. Il est proposé que Thomas Spencer Monson soit soutenu comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avec ses conseillers et les membres du Collège des douze apôtres, comme ils ont été présentés et soutenus. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, vous pouvez le manifester. Veuillez vous asseoir. Que toute la prêtrise d'Aaron se lève, c'est-à-dire tous les prêtres, instructeurs et diacres ordonnés. Il est proposé que Thomas Spencer Monson soit soutenu comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avec ses conseillers et les membres du Collège des douze apôtres comme ils ont déjà été présentés et soutenus. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. S'il y a des avis contraires, vous pouvez l'indiquer de la même manière. Vous pouvez vous asseoir. Que tous les membres de la société de secours, c'est-à-dire toutes les femmes, à partir de 18 ans, se lèvent. Il est proposé que Thomas Spencer Monson soit soutenu comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des douze apôtres, comme ils ont déjà été présentés et soutenus. Que toutes celles qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Celles qui sont d'avis contraire peuvent l'indiquer de la même manière. Vous pouvez vous asseoir. Que toutes les jeunes filles, c'est-à-dire les jeunes filles de 12 à 18 ans, se lèvent, s'il vous plaît. Il est proposé que Thomas Spencer Monson soit soutenu comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze Apôtres, comme ils ont déjà été présentés et soutenus. Que toutes celles qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Si vous êtes d'avis contraire, vous pouvez l'indiquer de la même manière. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, que tous les membres, où qu'ils soient réunis, y compris tous ceux qui se sont déjà levés, se lèvent, s'il vous plaît. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec ses conseillers et les membres du Collège des Douze Apôtres, comme ils ont été présentés et soutenus. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. S'il y a des avis contraires, vous pouvez l'indiquer de la même manière. Vous pouvez vous asseoir. Nous pouvons maintenant rester assis pour la suite des relèves et des appels pour les autres autorités générales, 70 d'interrégion et présidence générale d'auxiliaire de l'Église. Il est proposé de relever Elder D. Todd Christofferson comme membre de la présidence des collèges des 70. Ceux qui souhaitent se joindre à nous pour un vote de remerciement, veuillez le manifester. Il est proposé que nous relevions les 70 d'interrégion suivants avec un effet au 1er mai 2008. A. Venancio Caleira, Marco Cardenas, José Castro, Gérald Cossé, Luis Chaveri, Timothy Dykes, Jaime Ferreira, José Garcia, Francisco Jiménez, Carlos Godoy, James Hamula, Frédéric Irésiene, Glenn Jensen, Robert Koch, Quen Tony Ling, Richard May, Ross McEachran, Yasuo Niyama, Timothy Olsen, Fernando Ortega, Luigi Peloni, Rafael Pino, Gelson Pizzirani, Alejandro Robles, Gerold Roth, Gonzalo Sepulveda, Su Kyung Tan, Anthony Temple, Larry Wilson, Tsung Ting Jared Young, Willy Zuzu Naga. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour un vote de remerciement pour leur excellent service, veuillez le manifester. Il est proposé de relever Sœur Susan Tanner, Elaine Dalton et Mary Cook comme présidence générale des jeunes filles. Nous aimerions aussi relever tous les membres du Bureau général des jeunes filles. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer notre appréciation pour cet excellent service et pour leur dévouement, veuillez le manifester. Il est proposé que nous soutenions Elder L. Whitney Clayton comme membre de la présidence des collèges des 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Vous pouvez le manifester aussi. Il est proposé que nous soutenions comme nouveaux membres du premier collège des 70 William R. Walker, Craig C. Christiansen, Marcos A. Aidukaitis, Gérald Cossé, Lawrence E. Cordbridge, Eduardo Gavaret, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, José A. Teixeira, F. Michael Watson et George F. Zeballos, et en tant que nouveau membre du second collège des 70, Tad R. Callister et Kent D. Watson. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, vous pouvez l'indiquer de la même manière, s'il vous plaît. Il est proposé que nous soutenions les frères suivants comme nouveaux 70 d'interrégion: Pedro Abularak, Koichi Aoyagi, Juan Barros, Colin Bricknell, Victor K. Keng Chen, Kuo Chiang Chung, Devon Cornish, Win Dusnap, Matthew Eyring, Guillermo Garcia, Robert Gay, Alfredo Gesatti, James Gibson, Julio González, Paolo Itinose, Douglas Jessop, Faustino López, Declan Madou, Per Malm, Fernando Maluenda, James Martino, Sergei Mikulin, Abelardo Morales, David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert Onle, Michael Pickert, Anatoly Reshetnikov, William Reynolds, Michael Roberts, Fernando Da Rocha, Ricardo Santana, Robert Smith, Israel Tolentino, Ruben Torres, Romeo Villarreal, Luis Weidman, Chi Hong Sam Wong. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, il est proposé que nous soutenions Elaine S. Dalton en tant que nouvelle présidente générale des jeunes filles, avec Mary Cook comme première conseillère et Anne M. Dibb comme seconde conseillère. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il est proposé que nous soutenions les autres autorités générales, 70 interrégions et président général d'auxiliaire, comme constitué actuellement. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, par le même signe. Président Monson, comme j'ai pu l'observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime en faveur des propositions faites. Merci, frères et sœurs, pour votre vote de soutien, pour votre foi, votre dévouement et pour vos prières. Nous invitons les nouveaux membres du Collège des 70 et la nouvelle présidence des jeunes filles de venir prendre leur place sur l'estrade.
Gratefully, we welcome Elder.
Avec reconnaissance, nous souhaitons la bienvenue à frère D. Todd Christopherson au Collège des 12 apôtres. De tout cœur, nous soutenons cette première présidence formidable et tous ceux qui ont été appelés. Mes frères et sœurs, quand nous avons appris le décès de président Hinckley, chacun de nous a immédiatement eu le sentiment d'une grande perte. Mais sachant que sa destinée est entre les mains du Seigneur, nous sommes passés du chagrin à un sentiment de gratitude. Nous sommes très reconnaissants de ce que ce grand prophète de Dieu nous a appris. Aujourd'hui, à cette assemblée solennelle, nous nous sommes conformés à la volonté du Seigneur qui a dit « Il ne sera donné à aucun homme d'aller prêcher mon évangile ou d'édifier mon église s'il n'est ordonné par quelqu'un qui a l'autorité et dont l'Église sait qu'il a l'autorité et qui a été dûment ordonné par les chefs de l'Église. Cette loi du consentement commun a été invoquée et l'Église ira de l'avant comme cela a été prescrit. Les membres partout dans le monde soutiennent le président Monson et ses conseillers compétents. Nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le Seigneur a révélé pourquoi Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, le ministère des apôtres, la première présidence et les 12, est de réaliser cette unité de la foi et de proclamer notre connaissance du Maître. Notre ministère consiste à bénir la vie de toutes les personnes qui apprendront et suivront la voie par excellence du Seigneur. Et nous devons aider les gens à réaliser leur salut et leur exaltation potentielle. Le troisième article de foi déclare que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Être sauvé ou obtenir le salut signifie être sauvé de la mort physique et spirituelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, tout le monde ressuscitera et sera sauvé de la mort physique. Les gens peuvent aussi être sauvés de la mort spirituelle grâce à l'expiation de Jésus-Christ, par leur foi en lui, en obéissant aux lois et aux ordonnances de son évangile et en le servant. Être exalté ou obtenir l'exaltation signifie obtenir le plus haut état de bonheur et de gloire dans le royaume céleste. Nous pouvons obtenir ces bénédictions après avoir quitté cette frêle condition mortelle. C'est maintenant que nous devons nous préparer à notre salut ou exaltation finale. Pour cette préparation, nous devons commencer par écouter et comprendre l'Évangile. C'est pour cette raison que l'Évangile de Jésus-Christ est porté à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il y a quelques années, j'ai rencontré le roi d'une tribu en Afrique. Quand il s'est rendu compte qu'il était instruit par un apôtre du Seigneur, il a été profondément touché. Il a dit qu'une multitude de gens de son peuple se feraient baptiser s'il leur demandait de le faire. Je l'ai remercié de sa gentillesse, mais je lui ai expliqué que le Seigneur n'agit pas de cette manière. L'acquisition de la foi au Seigneur est une affaire individuelle. Le repentir est aussi une affaire individuelle. On ne peut être baptisé, recevoir le Saint-Esprit, qu'individuellement. Nous naissons tous individuellement. De la même manière, tous, nous naissons de nouveau individuellement. Le salut est une question individuelle. La progression individuelle est nourrie dans la famille, qui est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Le foyer doit être le laboratoire d'amour et de service de Dieu. Là, le mari doit aimer sa femme, la femme doit aimer son mari. Les parents et les enfants doivent s'aimer mutuellement. Partout dans le monde, la famille est de plus en plus attaquée. Si la famille y échoue, beaucoup de nos systèmes politiques, économiques et sociaux échoueront aussi. Et si les familles échouent, leur potentiel éternel, glorieux, ne peut pas se réaliser. Notre Père Céleste veut que le mari et la femme soient fidèles l'un à l'autre et qu'ils estiment et traitent leurs enfants comme un héritage de l'Éternel. Dans une telle famille, on étudie les Écritures et l'on prie ensemble. On se concentre sur le Temple, l'endroit où on reçoit les plus grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour ses enfants fidèles. Grâce au plan, grand plan du bonheur de Dieu, les membres de la famille pourront être ensemble éternellement, en tant qu'être exalté. Notre Père Céleste a déclaré, « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Ces deux objectifs ont été rendus possibles par l'expiation de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Son expiation a fait de la résurrection une réalité et de la vie éternelle une possibilité pour tous. La résurrection ou l'immortalité est accordée inconditionnellement à tous les hommes et toutes les femmes. La vie éternelle ou gloire céleste ou exaltation est un don conditionnel. Les conditions de ce don ont été définies par le Seigneur qui a dit « Si tu gardes mes commandements et persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle, don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. » Les conditions pour se qualifier sont d'avoir la foi au Seigneur, de se repentir, de se faire baptiser, de recevoir le Saint-Esprit et de rester fidèle aux ordonnances et aux alliances du Temple. Nul homme de l'Église ne peut obtenir le plus haut degré de la gloire céleste sans une femme digne scellée à lui. Cette ordonnance du Temple permet l'exaltation finale des deux personnes. Dans les appels de l'Église, nous pouvons être relevés, mais nous ne pouvons pas être relevés de notre appel de parents. Depuis les premiers jours de l'histoire humaine, le Seigneur a commandé aux parents d'enseigner l'Évangile à leurs enfants. Moïse a écrit, « Tu inculqueras à tes enfants les commandements, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » De nos jours, le Seigneur a ajouté, « Élevez vos enfants dans la lumière et la vérité. » L'Église doit aider et non remplacer les parents dans leur responsabilité d'instruire leurs enfants. À notre époque d'immoralité freinée et de pornographie menant à la dépendance, les parents ont la responsabilité sacrée d'enseigner à leurs enfants l'importance de Dieu dans leur vie. Ces mots, tellement destructifs du potentiel divin, doivent être strictement évités par les enfants de Dieu. Nous devons aussi enseigner à nos enfants à honorer leurs parents. Le cinquième commandement dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Comment instruire au mieux nos enfants? Le Seigneur nous a donné une instruction précise. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise, autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et la connaissance pure, qui épanouiront considérablement l'âme, sans hypocrisie et sans fausseté, réprimandant avec rigueur en temps opportun, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il ne te considère comme son ennemi. Quand il faut corriger un enfant, vous pourriez vous demander, que puis-je dire ou faire qui le persuaderait de choisir une meilleure voie? Quand vous faites une correction nécessaire, faites-le calmement, en privé, avec amour et non public. S'il faut une réprimande, montrez rapidement un redoublement d'amour pour que des graines de ressentiment ne restent pas. Pour être persuasif, votre amour doit être sincère et vos enseignements basés sur la doctrine divine et de bons principes. Ne soyez pas autoritaire avec vos enfants, mais écoutez-les. Aidez-les à apprendre l'Évangile. inspirez-les et guidez-les vers la vie éternelle. Vous êtes les représentants de Dieu pour prendre soin d'enfants qu'il vous a confiés. Gardez son influence divine dans le cœur pour instruire et persuader. Tout exposé sur les responsabilités familiales de préparation à l'exaltation serait incomplet si l'on ne parlait que de la mère, du père et des enfants. Qu'en est-il des grands-parents et des autres ancêtres? Le Seigneur a révélé que nous ne pouvons pas devenir parfaits sans eux, et ils ne le peuvent pas non plus sans nous. Les ordonnances de scellement sont essentielles à l'exaltation. Une femme a besoin d'être scellée à son mari, les enfants ont besoin d'être scellés à leurs parents, et ils ont tous besoin d'être reliés à nos ancêtres. Qu'en est-il des personnes qui ne peuvent pas se marier dans cette vie, ou de celles qui ne peuvent pas être scellées à leurs parents dans cette vie? Nous savons que le Seigneur jugera chacun de nous selon les désirs de notre cœur, ainsi que selon nos œuvres, et que les bénédictions d'exaltation seront accordées à tous ceux qui seront dignes. Nous, les enfants de l'Alliance, sommes hautement favorisés. Les promesses faites aux pères, Abraham, Isaac et Jacob sont implantées dans nos cœurs. Le Seigneur a dit, « Vous êtes héritiers légitimes selon la chair, et vous avez été cachés au monde avec le Christ en Dieu. C'est pourquoi vous êtes bénis si vous persévérez dans ma bonté, étant une lumière pour les gentils, et par cette prêtrise, des sauveurs pour mon peuple d'Israël. » Cette vie est le moment de se préparer au salut et à l'exaltation. Dans le plan éternel de Dieu, le salut est affaire individuelle. L'exaltation est affaire familiale. C'est en tant qu'enfants de l'Alliance que nous sommes réunis en assemblée solennelle ce matin. L'attention était attirée sur les titres sacrés de prophètes et d'apôtres. Mais la responsabilité de se préparer au salut et à l'exaltation finale repose sur chaque personne. Chacune a son libre arbitre, agit dans sa propre famille, porte un titre également sacré de mère, de père, de fille, de fils, de grand-mère ou de grand-père. Dans ces rôles chargés de responsabilité, puissions-nous aller de l'avant avec foi, conduits par Jésus-Christ, dont c'est l'Église, et par le prophète, par l'intermédiaire duquel il parle. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our hearts have been touched.
Nos cœurs ont été touchés. Quelle belle production. Gloire à celui qui a vu Dieu le Père. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Ronald Rasband de la présidence des 70, puis Cheryl C. Lant, présidente générale de la primaire. Le chœur et l'assemblée chanteront ensuite « Seigneur, merci pour le prophète ». Alors Kenneth Johnson des 70 nous adressera ensuite la parole. Il sera suivi de Joseph B. Wevelin du Collège des 12 apôtres. Elder Rasband.
I would like to add my testimony and witness on this special day.
J'ajoute mon témoignage en ce jour spécial que je sais que Thomas S. Monson est le prophète du Seigneur sur la terre. Je suis reconnaissant, tout comme vous, de participer à cette conférence historique.
As we sustain in an orderly and patterned way our new prophet, first presidency, and other leaders of
the Church. Où nous soutenons notre nouveau prophète, notre nouvelle présidence et les autres dirigeants de l'Église. Ce genre d'expérience renforce notre témoignage et accroît notre foi que c'est bien là l'Église vraie et vivante du Seigneur. Le parcours de notre vie nous fournit de nombreuses expériences spéciales qui deviennent les pierres qui édifient notre foi et notre témoignage. Ces expériences nous arrivent de façon extrêmement différente et à des moments imprévisibles. Elles peuvent être des événements spirituels d'une grande force ou de petits instants d'éclaircissement. Certaines expériences nous sont données sous forme de graves difficultés ou de lourdes épreuves qui éprouvent notre capacité d'en venir à bout. Quelle que soit l'expérience, elle nous donne une chance de progresser, d'acquérir plus de sagesse et dans de nombreux cas, de servir les autres avec davantage d'empathie et d'amour. Comme le Seigneur l'a déclaré à Joseph Smith, le prophète, pour le rassurer pendant l'une de ses plus grandes épreuves à la prison de Liberty, toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. En s'additionnant, les expériences de notre vie ajoutent les unes aux autres de la force et du soutien. Tout comme les pierres de construction de nos maisons soutiennent le reste de la structure, les expériences de notre vie deviennent également les pierres de construction de notre témoignage et augmentent notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Cette conférence même montre bien la valeur d'une vie pleine d'expériences. Lorsque nous suivons les sages conseils de nos dirigeants et sommes émerveillés par leur enseignement et leur esprit, nous ne nous étonnons plus que le Seigneur choisisse le doyen de ses apôtres pour devenir son prophète élu après des années de préparation. Dans ma bénédiction patriarcale, il est indiqué qu'il me serait donné de vivre des expériences spéciales qui renforceraient mon témoignage. Mes frères et sœurs, repensez aux expériences spéciales qu'il vous a été donné de vivre et qui vous ont mis la conviction et la joie au cœur. Rappelez-vous, la première fois, vous avez su que Joseph Smith était le prophète du Dieu du rétablissement. Rappelez-vous le moment où vous avez accepté l'invitation de Moroni et su que le livre de Mormon est bien un autre témoignage de Jésus-Christ. Rappelez-vous l'instant où vous avez reçu la réponse à une prière fervente et avez pris conscience que votre Père Céleste vous connaît et vous aime personnellement. Lorsque vous songez à ces expériences toutes particulières, ne vous apportent-elles pas la gratitude et la détermination d'aller de l'avant avec une foi et une détermination accrue? Récemment, Sœur Rasband et moi avons une expérience que nous n'oublierons jamais. J'avais reçu la tâche de présider deux conférences de pieux au Pérou. Là-bas, nous sommes rendus à la ville de Puno, dans le haut de la cordillère des Andes, au lac Titicaca. À 3800 mètres, au-dessus du niveau de la mer, nous étions ébahis par cette ville simple et magnifique au bord de ce haut lac andin. Nous avons rencontré le président de Pieux de cette région et nous avons une veillée merveilleuse avec des centaines de jeunes de la région de Puno. Un matin, nous avons été invités à rendre une visite à un petit groupe de membres qui habitent sur les îles flottantes en roseau du lac Titicaca. Les habitants en sont les Indiens Huros de Bolivie et du Pérou. On nous a dit que quelques familles de membres de l'Église s'étaient unies et avaient construit une nouvelle petite île flottante à eux. Impatients, nous avons pris un bateau pour cette île et avons été accueillis chaleureusement par ces membres merveilleux. Nous avons tenu leurs bébés emmaillotés dans de superbes couvertures faites à la main de toutes les couleurs. Nous avons mangé du poisson qu'ils avaient pêché le jour même dans le lac et avait été magnifiquement préparé et généreusement partagé. Nous avons vu leurs marchandises et leur artisanat et avons échangé des cadeaux. Au cours de cette visite, nous avons appris que leurs enfants faisaient 45 minutes en canoë pour aller au séminaire et à l'école de Puno et autant pour en revenir chaque jour. Nous avons aussi été heureux de voir que ces membres connaissaient les Écritures, les comprennent et les aiment. Avec empressement, ils nous ont montré leurs recommandations à l'usage du temple en cours de validité, car ils ont été dotés et scellés au temple de Cochabamba en Bolivie. Avant notre départ, l'une des mères nous a demandé de nous agenouiller et de faire la prière en famille avec eux. Je me souviens bien de m'être mis à genoux sur les roseaux spongieux avec ses saints fidèles. Lorsque nous sommes agenouillés, la sœur m'a demandé si je voulais bien faire la prière et par la prêtrise de Melchizedek, consacrer leur nouvelle île et leur nouveau foyer. J'ai ressenti une profonde humilité lorsque là, sur ces îles flottantes du lac Titicaca, ces familles de membres de l'Église fidèles m'ont demandé de prier pour la petite île de Apuinti et de demander au Seigneur de bénir les foyers et les familles de Lujano et de Halawi. En réfléchissant à cette expérience spéciale que le Seigneur nous a permis de vivre, je me rends compte qu'une nouvelle pierre a été ajoutée à l'édifice de ma foi. Je pense souvent que cette expérience à Puno est un rappel de plus de l'accomplissement de ma mission patriarcale. Dans la préface des Doctrines Alliance, écrite en 1831, annonçant le développement de l'œuvre du Seigneur à notre époque, il a révélé « Mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde, afin que la foi grandisse sur la terre, afin que mon alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde. » Mes frères et sœurs, les membres faibles et simples de l'Église, comme vous et moi, portent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. À Puno, au Pérou, et dans d'autres endroits lointains, la foi augmente parmi le peuple de l'Alliance de Dieu, et je crois que c'est si nous accumulons de telles expériences précieuses que la foi de chacun de nous peut augmenter. Le président Monson a dit « Le Seigneur commande à ceux qui lui obéissent, qu'ils soient des sages ou des gens simples. Il se révélera dans leurs labeurs, les conflits, les souffrances qu'ils traverseront en sa compagnie, et ils apprendront par leur expérience personnelle qui il est. » En ces jours d'ingérence du monde dans notre vie, où les épreuves et les difficultés peuvent sembler nous engloutir, rappelons-nous nos propres expériences spirituelles spéciales. Ces pierres de construction de la foi et du témoignage nous apporteront la conviction et la confirmation de l'existence d'un Père céleste plein de sollicitude et aimant, de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et de leur Église rétablie, vraie et vivante. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je me souviens de toujours avoir vu mon père porter une belle bague avec un rubis à sa main gauche. Il l'a léguée à mon frère unique. Je suppose que cela deviendra une tradition dans notre famille, un patrimoine passé de génération en génération. Ce sera une bonne tradition, associée à des souvenirs agréables. Nous avons tous des traditions dans notre famille. Certaines sont matérielles, certaines ont une signification profonde. Les traditions les plus importantes sont liées à la manière dont nous menons notre vie, et elles dureront après et influenceront et façonneront la vie de nos enfants. Dans le livre de Mormon, nous lisons que les Lamanites étaient profondément influencés par les traditions de leur père. Le roi Benjamin a dit « Les Lamanites ne savent rien des principes de l'Évangile et n'y croient même pas lorsqu'on les leur enseigne à cause des traditions de leur père qui ne sont pas correctes. » Quel genre de tradition avons-nous? Certaines nous sont peut-être venues de nos pères et maintenant nous les transmettons à nos enfants. Sont-elles ce que nous voulons qu'elles soient? Sont-elles basées sur des actions inspirées par la droiture et la foi? Sont-elles principalement de nature matérielle ou sont-elles éternelles? Établissons-nous consciemment des traditions justes ou subissons-nous simplement la vie? Nos traditions sont-elles établies en réaction aux voix fortes du monde ou sont-elles influencées par le murmure doux et léger de l'esprit? Les traditions que nous établissons dans notre famille vont-elles aider nos enfants à suivre les prophètes vivants ou vont-elles leur rendre ce devoir plus difficile? Comment devons-nous déterminer ce que seront nos traditions? Les Écritures nous donnent une excellente ligne de conduite. Dans Mosiah 5, 15, il est dit « C'est pourquoi je voudrais que vous soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres. » J'aime cette déclaration parce que nous savons que les traditions sont formées par la répétition multiple des mêmes actions. Si nous sommes constants et immuables à faire le bien, nos traditions s'enracinent fermement dans la justice. Mais j'ai une question. Comment pouvons-nous juger de ce qui est bien, ou plus important encore, de ce qui est suffisamment bien? On trouve un peu plus de renseignements dans 3 Néphis 6, 14. Ce passage parle de gens qui étaient convertis à la vraie foi. Il ajoute, et ils ne voulaient pas s'en éloigner, car ils étaient fermes et constants et immuables, voulant en toute diligence garder les commandements du Seigneur. Nous apprenons que notre conversion à la vraie foi précède notre capacité de rester ferme, constant et immuable à garder les commandements. Cette conversion est une croyance ferme que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Nous en trouvons le témoignage dans le Livre de Mormon, qui est un autre témoignage de Jésus-Christ. Il proclame de concert avec la Bible la divinité et la mission de Jésus-Christ, ainsi que la réalité d'un Père céleste vivant. Tous les prophètes de ces livres sacrés témoignent personnellement de ces choses et enseignent comment nous devons mener notre vie pour avoir part à l'expiation et trouver la paix et le bonheur. Il n'y a qu'une seule manière de connaître la conversion personnelle. C'est par le témoignage de l'Esprit, quand nous étudions ces Écritures qui témoignent de Jésus-Christ. C'est en priant et en jeûnant. Elle ne se produit que lorsque nous avons le désir profond de connaître la vérité. Nous devons avoir pour motivation de rechercher ouvertement la vérité, non de justifier nos actions en cherchant des fautes dans les Écritures, les enseignements des prophètes ou l'Église elle-même. Nous devons chercher à entendre les interprétations de l'Esprit et non la compréhension du monde. Nous devons être disposés à ouvrir notre cœur et notre esprit, à accepter la voix du Seigneur et, si nécessaire, à changer de vie. La conversion personnelle se produit quand nous commençons à vivre comme le Seigneur veut que nous le fassions, constant et immuable à garder tous les commandements, pas seulement ceux qui nous conviennent. Cela devient alors un processus de raffinement qui se produit à mesure que nous nous efforçons de rendre chaque jour un peu meilleur que le précédent. Nos traditions deviennent alors des traditions justes. Je nous invite tous à prendre un moment pour réfléchir aux traditions de notre vie et à l'influence qu'elles peuvent avoir sur notre famille. Nos traditions de respect du jour de sabbat, de prière familiale, d'études familiales des Écritures, de services et d'activités dans l'Église, ainsi que les modèles de respect et de loyauté au foyer, auront un grand effet sur nos enfants et sur leur avenir. Si la manière dont nous élevons nos enfants est basée sur les enseignements des Écritures et des prophètes des derniers jours, nous ne pouvons pas nous tromper. Si face à chaque difficulté, notre cœur se tourne d'abord et toujours vers notre Père Céleste pour être guidé, nous serons en lieu sûr. si nos enfants connaissent notre position et si nous sommes toujours du côté du Seigneur, nous savons que nous sommes là où nous devons être. Et ce qui est important, c'est de nous efforcer constamment de le faire. Nous n'y arriverons pas parfaitement et notre famille ne réagira pas toujours positivement, mais nous édifierons un fondement ferme de traditions justes auxquelles nos enfants pourront se fier. Ils pourront se tenir à ce fondement quand la situation devient difficile et ils pourront revenir à ce fondement s'ils s'égarent pendant un temps. À la fin de sa vie, mon père nous a transmis à nous, ses enfants, beaucoup plus qu'une bague avec un rubis. Son corps était usé, mais en réalité, il était un pilier de force, un exemple de droiture et de vérité. Sa vie contenait les traditions qui nous fortifient aujourd'hui, même s'il n'est plus avec nous. Il était ferme, constant et immuable, voulant, en toute diligence, garder les commandements du Seigneur. Pouvons-nous faire cela pour nos enfants? Quel patrimoine leur donnons-nous aujourd'hui? Quel sera-t-il demain? Ce patrimoine peut commencer par nous. Le cœur et la vie de nos enfants seront-ils pleins de traditions qui les aideront à accepter et à suivre plus facilement le Seigneur et les prophètes des derniers jours? Pourrons-nous, en tant que famille, prétendre aux bénédictions promises afin que le Christ, le Seigneur Dieu omnipotent, vous scelle comme sien, afin que vous soyez amenés au ciel, que vous ayez le salut éternel et la vie éternelle? Mes frères et sœurs, je sais que nous le pouvons. Je sais que Dieu nous aime et qu'il attend de nous aider à aller à lui. Chacun de nous peut savoir que ces choses sont vraies. Je sais qu'elles le sont. Je sais que Dieu vit. Jésus-Christ est son Fils et notre Rédempteur. L'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Les Écritures le contiennent et en témoignent. Et nous avons un véritable prophète vivant aujourd'hui, Président Thomas S. Monson. Il a été préparé et suscité à notre époque pour diriger l'Église du Seigneur. En devenant constant et immuable à garder les commandements du Seigneur, nous obtiendrons les bénédictions des cieux pour nous-mêmes et pour notre famille. Je prie pour que nous le ressentions profondément dans notre cœur et dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ.
This is the 178th annual general.
Vous assistez à la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ et des Saints des derniers jours.
Avec la connaissance du grand plan du bonheur, nous avons la possibilité et aussi la responsabilité d'aider à rétablir la foi en famille. À de nombreux égards, notre mission est comparable à celle des gens qui travaillent dans les domaines de la médecine et de la recherche scientifique. À l'aide de lois établies, ils déterminent comment la souffrance peut être soulagée et la qualité de la vie améliorée. Dans le domaine des croyances religieuses, les hommes et les femmes de foi, à l'aide de principes éprouvés, peuvent aider à guérir un cœur endeuillé, à rendre l'espoir et l'assurance à un esprit troublé. La réussite du scientifique passe par le respect de ce que nous appelons souvent les lois naturelles. Les grands scientifiques du passé et du présent n'ont pas créé les lois associées à ces processus qui se déroulent naturellement. Ils les ont découvertes. Dans une lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul pose une question qui pousse à réfléchir concernant la source de la capacité intellectuelle de l'homme. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Par la logique et l'apprentissage, nous augmentons la connaissance et améliorons la compréhension. Par ce processus, les théories et les lois sont identifiées et acceptées comme authentiques. Une chose qui devient claire pour l'esprit éclairé, c'est qu'il y a des lois qui maintiennent l'équilibre de la vie et des êtres vivants. La découverte et le respect des lois de la physique apportent le progrès, permettent à l'homme de s'élever à des niveaux de connaissance autrement impossibles. Je crois que ce principe s'applique aussi aux valeurs morales. Nous avons par conséquent la responsabilité de sauvegarder le foyer comme centre d'apprentissage où ces vertus peuvent être instillées dans une atmosphère d'amour et par le pouvoir de l'exemple. Le président Monson a enseigné, les jeunes ont besoin de moins de critiques et de plus d'exemples à suivre. En repensant à ma vie, je comprends comment j'ai appris à aimer les valeurs fondamentales nécessaires à l'acquisition d'une bonne personnalité. Où ai-je appris la loyauté, l'intégrité et la responsabilité? J'ai appris ces qualités au foyer, de l'exemple de mes parents. Comment ai-je appris à chérir le service désintéressé? Je l'ai fait en observant le dévouement de ma mère à sa famille et en bénéficiant. Où ai-je appris à honorer et respecter les filles de Dieu? Je l'ai appris de l'exemple de mon père. C'est au foyer que j'ai appris les principes de la prévoyance et la dignité du travail. Je revois ma mère passer d'innombrables soirées à la maison sur une machine à coudre à pédales, cousant des chaussures pour une usine locale. Ce n'était pas pour lui permettre de s'acheter quelque chose, mais pour apporter un soutien financier afin que mon frère puisse aller à l'université. Elle a dit par la suite quelle source de satisfaction cet acte de service avait été pour elle. Mon père était un homme sage et travailleur. Il m'a appris à couper du bois avec une scie à main, à remplacer ou fixer une prise au fil électrique d'un appareil ménager, et beaucoup d'autres compétences pratiques. Toutes ces leçons avaient un thème commun, ne jamais nous satisfaire de moins que ce que nous pouvions faire de mieux. J'ai appris comment prendre des décisions importantes en parlant avec mes parents et en écoutant leurs conseils. En plus de ce que je viens de mentionner, il y a la responsabilité, la considération pour les autres, l'encouragement à saisir les possibilités d'études, et la liste ne s'arrête pas là. L'évangile rétabli de Jésus-Christ m'a été présenté quand j'étais adolescent par Pamela, qui est par la suite devenue ma femme. Elle m'a aidé à transformer ma vie de la simple mélodie qu'elle était alors en une envolée symphonique. J'ai vécu 67 ans de bonheur conjugal et familial, 22 ans comme fils au foyer de mes parents et 45 ans comme mari et comme point culminant la joie d'être père et grand-père. Que pourrait-on espérer de plus? Autrement dit, tout le monde apprécierait ces mêmes choses. Retournant aux enseignements de Paul dans la lettre aux Corinthiens, nous trouvons « De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les scientifiques acquièrent leurs connaissances principalement par des recherches, en faisant des expériences et en utilisant leur intelligence. Les disciples du Christ reçoivent leur témoignage en étudiant ses paroles, en observant ses œuvres, en mettant les principes en pratique et par l'esprit d'inspiration. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Les vérités spirituelles peuvent paraître moins tangibles, mais pour le cœur humble, leur impact est indéniable. Il est important de comprendre que les lois naturelles n'ont pas été déterminées sur la base de la popularité. Elles ont été établies et reposent sur le roc de la réalité. Il y a aussi des vérités morales qui n'ont pas commencé avec l'homme. Elles sont au centre d'un plan divin qui, comme nous le découvrons et l'appliquons, nous apporte beaucoup de bonheur et d'espoir dans la condition mortelle. Par exemple, je crois, comme il est indiqué dans la Déclaration au monde sur la famille et défini dans les révélations divines, que le mariage et la famille sont ordonnés de Dieu. Les Écritures déclarent, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les hommes sages du passé nous ont transmis un patrimoine de connaissances. Nous devons transmettre aux générations futures un fondement de foi en la famille défini par la divinité. Nous ne devons jamais oublier que la liberté et le bonheur dans tous les aspects de la vie viennent de la compréhension et de l'application de principes éternels. Ils fournissent un fondement sûr sur lequel édifier une vie bien remplie, productive et heureuse. En suivant le schéma prescrit par le plan du Père, j'ai pu connaître personnellement ce que signifie vivre heureux et puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Le Sauveur a enseigné, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Notre perspective ou notre attitude peuvent parfois limiter notre capacité de profiter des plus grandes possibilités de la vie. Quelqu'un pourra demander, qu'en est-il des gens qui n'ont pas un bon milieu familial? Les familles stables fournissent le tissu social qui bénéficie à tout le monde, même aux gens qui peuvent avoir le sentiment d'être dans une situation moins favorable. Pour ceux qui mènent une vie fidèle et prient patiemment pour avoir cette sociabilité, voici les paroles simples et rassurantes de Helen Steiner Rice. Quand Dieu fait une promesse, elle reste vraie à jamais, car il accomplira immuablement tout ce qu'il promet. Quand la désillusion vous envahit et que l'espoir s'anéantit, rappelez-vous les promesses de Dieu et votre foi se rallumera. Ma prière est que nous puissions ensemble, avec courage et conviction, être les gardiens du don divin qu'est la famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant de l'occasion d'être aujourd'hui avec vous dans ce magnifique centre de conférence. Aussi vaste que soit cette assemblée, elle n'est qu'une fraction des millions de personnes qui vont encore voir, entendre et lire ce qui aurait été dit à cette grande conférence. Notre président bien-aimé, Gordon B. Hinckley, nous manque naturellement, mais son influence nous a rendus meilleurs. L'Église est plus forte grâce à ses directives. Je dirais même que le monde est meilleur parce qu'il y a un dirigeant tel que Gordon B. Hinckley. Je voudrais dire quelques mots au sujet de notre nouvelle présidence. Je connais le président Monson depuis longtemps. C'est un vaillant homme d'Israël qui a été préordonné pour présider l'Église. Il est bien connu pour ses histoires et ses paraboles captivantes. Mais nous qui le connaissons le mieux, nous savons que sa vie est un modèle pratique et exemplaire de l'application de ses histoires. Si c'est flatteur pour lui que beaucoup parmi les plus grands et les plus puissants de ce monde le connaissent et l'honorent, c'est peut-être un hommage encore plus grand que beaucoup d'entre les plus humbles l'appellent leur ami. Le président Monson est bon et compatissant jusqu'au plus profond de lui-même. Ses paroles et ses actes sont un exemple de son souci de chacun. Le président Herring est un homme sage, instruit et d'une grande spiritualité. Il est connu et respecté non seulement dans l'Église, mais par des gens qui ne sont pas de notre religion. Il est le genre d'homme que tout le monde écoute quand il parle. Il a donné du prestige au nom de Herring. J'ai connu le président Uchtdorf quand j'étais président d'Interrégion en Europe. Dès l'instant où je l'ai rencontré, j'ai reconnu en lui un homme d'une immense profondeur spirituelle, aux formidables capacités. J'ai su que le Seigneur ne l'oubliait pas. Il y a 23 ans, j'ai eu l'honneur de lui transmettre l'appel du Seigneur de remplir les fonctions de président de pieux à Hambourg, en Allemagne. En l'observant au cours des années, j'ai remarqué que tout réussissait sous sa direction. Le Seigneur est avec lui. Quand je pense au président Uchtdorf, deux mots me viennent à l'esprit. Alles Gute, ce qui veut dire en allemand « tout est bien ». Les vrais disciples de Jésus-Christ se sont toujours souciés de chacun, individuellement. Jésus-Christ est notre plus grand exemple. Il a été entouré de multitudes et a parlé à des millions de personnes. Et cependant, il a toujours eu le souci de chacun. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu, a-t-il dit. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ces instructions s'appliquent à tous ceux qui le suivent. Il nous est commandé de partir à la recherche de ceux qui sont perdus. Nous devons être les gardiens de nos frères. Nous ne pouvons pas négliger cette mission donnée par notre Sauveur. Nous devons nous soucier de chacun. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui sont perdus. Les uns parce qu'ils sont différents, d'autres parce qu'ils sont là, d'autres encore parce qu'ils se sont éloignés. Certains sont perdus parce qu'ils sont différents. Ils ont un sentiment d'exclusion. Peut-être, du fait qu'ils sont différents, ils se mettent à l'écart du troupeau. C'est peut-être qu'ils ont un aspect différent ou qu'ils agissent, pensent et parlent différemment de ceux qui les entourent et que cela leur donne parfois l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Ils en concluent qu'on n'a pas besoin d'eux. À cette conception erronée se rattache aussi la croyance incorrecte que tous les membres de l'Église sont censés avoir le même aspect et parler de la même façon et se ressembler. Le Seigneur n'a pas peuplé la terre en y mettant un orchestre de personnalités brillantes pour ne chérir que les bassons du monde. Chaque instrument est précieux et participe à la beauté complexe de la symphonie. Tous les enfants de notre Père Céleste sont différents dans une certaine mesure. Pourtant, chacun a son propre son qui apporte de la profondeur et de la richesse à l'ensemble. Cette diversité de la création est elle-même un témoignage de la valeur qu'accorde le Seigneur à tous ses enfants. Il n'estime pas une chair au-dessus d'une autre, mais il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, tous sont pareils pour Dieu. Je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait un garçon plus âgé qui était physiquement et mentalement handicapé. Il avait des troubles de l'élocution et marchait avec difficulté. Les garçons se moquaient de lui. Ils le taquinaient et se moquaient au point qu'il lui arrivait de pleurer. Il me semble encore entendre sa voix. « Vous n'êtes pas gentils avec moi », disait-il. Mais cela ne les empêchait pas de se moquer de lui, de le pousser, de faire des plaisanteries à son sujet. Un jour, je n'ai plus pu le supporter. Je n'avais que 7 ans, mais le Seigneur m'a donné le courage de faire face à mes camarades. « Ne le touchez pas, leur ai-je dit. Cessez de l'embêter. Soyez gentils, c'est un enfant de Dieu. » Mes camarades ont reculé et se sont détournés. Je me suis alors demandé si ma hardiesse n'allait pas compromettre mes relations avec eux. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. À partir de ce jour-là, mes camarades et moi sommes devenus plus proches. Ils ont montré davantage de compassion pour le garçon. Ils sont devenus de meilleurs êtres humains. À ma connaissance, ils ne l'ont plus jamais ennuyé. Mes frères et sœurs, si seulement nous avions plus de compassion pour ceux qui sont différents de nous, Cela réduirait beaucoup de problèmes et de souffrances dans le monde d'aujourd'hui. Cela ferait certainement de nos familles et de l'Église des lieux plus sanctifiés et plus célestes. Certains sont perdus parce qu'ils sont là. Il est facile de se sentir dépassé. Avec toutes les pressions et tout ce qui réclame notre temps et le stress que nous affrontons chaque jour, il n'est guère étonnant que nous soyons fatigués. Beaucoup sont découragés parce qu'ils ne se sont pas montrés à la hauteur. D'autres se sentent tout simplement trop faibles pour apporter quelque chose. Et ainsi, tandis que le troupeau va de l'avant, graduellement, presque imperceptiblement, certains s'écartent. Il arrive à tout le monde d'être fatigué, et là, à un moment ou à un autre. Cela m'arrive davantage maintenant que quand j'étais plus jeune. Joseph Smith, Brigham Young et même Jésus-Christ ont su ce que signifie être fatigué. Je ne voudrais pas sous-estimer le poids que les membres de l'Église ont sur les épaules, ni minimiser les épreuves émotionnelles et spirituelles qu'ils affrontent. Celles-ci peuvent être lourdes et souvent difficiles à supporter. J'ai cependant le témoignage du pouvoir régénérateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a proclamé que le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué et qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quand je suis fatigué, je me rappelle les paroles de Joseph Smith, le prophète. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Courage, frère, et en avant vers la victoire. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse. Que la terre éclate en chants. Que les bois et tous les arbres des champs louent le Seigneur. Et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. Membre de l'Église qui est rebuté par vos sentiments d'incapacité, je vous supplie d'aller de l'avant, de reprendre le collier et de tirer. Même lorsque vous avez le sentiment que vos efforts importent peu, l'Église a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. N'oubliez pas que le Seigneur choisit souvent les choses faibles du monde pour accomplir ses desseins. Vous tous qui êtes là, puisez du réconfort dans les paroles du Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Faisons confiance à cette promesse. Le pouvoir de Dieu peut nous remplir l'esprit et le corps d'énergie et de vigueur. Je vous invite à demander cette bénédiction au Seigneur. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, car il a promis que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il a ajouté, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Quand nous nous soucions des gens qui sont là, nous allons au secours des faibles, fortifions les mains languissantes et affermissons les genoux qui chancellent. Les dirigeants attentionnés de l'Église ne perdent pas de vue les limites humaines, et cependant ils désirent vivement faire appel aux membres dans la mesure de leurs forces et de leurs capacités. Les dirigeants enseignent et soutiennent, mais ne font pas pression pour que l'on court plus vite ou que l'on travaille plus qu'on a de force. Souvenez-vous que parfois, lentement va sûrement. Certains sont perdus parce qu'ils se sont éloignés. À part le Seigneur, nous avons tous commis des erreurs. La question n'est pas de savoir si nous allons trébucher et tomber, mais plutôt comment nous allons réagir. Il y en a qui, après avoir commis des erreurs, s'éloignent du troupeau. C'est malheureux. Ne savez-vous pas que l'Église est l'endroit où des gens imparfaits se rassemblent avec toutes leurs faiblesses de mortels et deviennent meilleurs? Chaque dimanche, dans toutes les églises du monde entier, nous trouvons des hommes, des femmes et des enfants mortels et faillibles qui se réunissent dans la fraternité et la charité pour s'efforcer de devenir meilleurs, pour apprendre sous l'influence de l'Esprit et encouragent et soutiennent les autres. Il n'existe pas, que je sache, une affiche à la porte de nos églises disant « Entrée limitée aux gens parfaits ». À cause de nos imperfections, nous avons besoin de l'Église du Seigneur. C'est là qu'on enseigne sa doctrine rédemptrice et que l'on administre ses ordonnances salvatrices. L'Église nous encourage et nous motive à être meilleurs et plus heureux. Elle est également un endroit où nous pouvons nous perdre dans le service des autres. Le Seigneur sait que nous ferons des erreurs. C'est pourquoi il a souffert pour nos péchés. Il veut que nous nous relevions et que nous nous efforcions de faire mieux. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous qui vous êtes éloignés parce que vous avez été offensés, ne pouvez-vous pas mettre de côté vos sentiments froissés et votre colère? Ne pouvez-vous pas remplir votre cœur d'amour? Votre place est ici. Venez, rejoignez le troupeau et consacrez vos capacités, vos talents et vos compétences. Vous n'en serez que meilleur et votre exemple fera du bien à d'autres. Pour ce qui est de ceux qui se sont éloignés pour des raisons doctrinales, nous ne pouvons pas nous excuser de la vérité. Nous ne pouvons pas nier une doctrine qui nous a été donnée par le Seigneur lui-même. Nous ne pouvons pas transiger sur ce principe. Je sais que parfois les gens sont en désaccord avec la doctrine. Ils vont même jusqu'à la qualifier d'insensée. Mais je fais écho aux paroles de l'apôtre Paul qui a dit que parfois les choses spirituelles semblent être une folie aux hommes. Néanmoins, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. En vérité, les choses de l'esprit sont révélées par l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous témoignons que l'évangile de Jésus-Christ est sur la terre aujourd'hui. Il a dit à propos de la doctrine de son Père, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Je sais que chacun de vous se fait du souci pour un proche. Encouragez-le, rendez-lui service et soutenez-le. Aimez-le, soyez gentil avec lui. Dans certains cas, il reviendra, dans d'autres pas. Mais dans tous les cas, soyons toujours dignes du nom que nous prenons sur nous, celui de Jésus-Christ. Je m'adresse à tous les habitants de cette belle terre et je rends solennellement témoignage que Dieu vit et que Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Roi. Il a rétabli sa vérité et son évangile par Joseph Smith, le prophète. Il parle à ses prophètes et à ses apôtres. Le président Thomas S. Monson est loin du Seigneur et guide son Église aujourd'hui. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
I enjoy hearing from my brethren.
Quelle joie d'entendre de mon frère. Ça a été mon privilège de superviser Father Wavelin pendant plusieurs années et qu'il s'occupait de la région de Francfort. Il m'a appelé régulièrement, toujours au même moment. Il m'a dit, c'est le meilleur moment de vous avoir. 8 heures en Allemagne et minuit à Salt Lake. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui ont parlé aujourd'hui et pour le chœur du tabernacle et de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant chanter « J'irai où tu veux ». Ensuite, de Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Le chœur chantera ensuite « Viens et suis-moi ». Après le chant, Ulysses Soares, des 70, fera la prière de clôture et la conférence sera interrompue jusqu'à 14 heures cet après-midi. Merci, mes frères et sœurs.
As we sustain
en soutenant Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église, et D. Todd Christopherson comme apôtre et membre du Collège des Douze, nous avons été témoins et avons ressenti des preuves de ce que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est vraie et vivante. Le Seigneur a parlé aux hommes par lesquels il a rétabli l'Église dans les derniers jours. Il a dit d'eux qu'ils avaient le pouvoir de poser les fondements de l'Église et de la faire sortir de l'obscurité des ténèbres, elle qui est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre. Il a ajouté, en laquelle moi, le Seigneur, je me complais. Et je parle ici à l'Église dans son ensemble et non aux membres individuellement. Car moi, le Seigneur, je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence. Néanmoins, celui qui se repent et obéit au commandement du Seigneur sera pardonné. Et à celui qui ne se repent pas, on ôtera même la lumière qu'il a reçue. Car mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme, dit le Seigneur des armées. Car cette Église est la véritable, la seule véritable Église, parce que les clés de la prêtrise s'y trouvent. Ce n'est que cette Église que le Seigneur investit du pouvoir de sceller sur terre et de sceller dans le ciel, comme il l'a fait du temps de l'apôtre Pierre. Ces clés ont été rendues à Joseph Smith, qui a alors été autorisé à les conférer aux membres du Collège des Douze. Quand le prophète Joseph a été assassiné, les ennemis de l'Église ont pensé que celle-ci allait mourir. Ils pensaient qu'elle était la création d'un mortel et que, par conséquent, elle périrait avec lui. Mais leurs espoirs ont été réduits à néant. C'était la vraie Église, et elle avait également le pouvoir de continuer à vivre, même si ceux qui avaient été choisis pendant un certain temps pour la diriger étaient morts. Nous avons vu aujourd'hui la démonstration que ceci est l'Église vraie et vivante. Les clés de la prêtrise sont détenues par des mortels, mais le Seigneur a prévu un moyen pour que les clés continuent d'opérer sur la terre tant que les hommes ont la foi que les clés sont sur la terre et qu'elles ont été transmises par la volonté de Dieu au serviteur qu'il a choisi. Le peuple de Dieu n'a pas toujours été digne de l'expérience merveilleuse que nous avons vécue aujourd'hui. Après l'ascension du Christ, les apôtres ont continué à exercer les clés qu'il leur avait laissées. Mais à cause de la désobéissance et de la perte de la foi des membres, les apôtres sont morts sans que les clés ne soient transmises à des successeurs. Nous appelons cet épisode tragique l'apostasie. Si les membres de l'Église de l'époque avaient eu l'occasion et la volonté d'exercer la foi comme vous aujourd'hui, le Seigneur n'aurait pas retiré les clés de la prêtrise de la terre. Aujourd'hui est donc un jour qui a une importance historique et éternelle dans l'histoire du monde et pour les enfants de notre Père céleste. Notre obligation est de rester digne de la foi nécessaire pour nous acquitter de notre promesse, de soutenir ceux qui ont été appelés. Le Seigneur était satisfait de l'Église au début du rétablissement, comme il est aujourd'hui. Mais il avertit les membres à l'époque, comme il le fait maintenant, qu'il ne peut considérer le péché avec la moindre indulgence. Pour soutenir ceux qui ont été appelés aujourd'hui, nous devons faire notre examen de conscience, nous repentir si nécessaire, nous engager à respecter les commandements du Seigneur et suivre ses serviteurs. Le Seigneur nous avertit que si nous ne faisons pas cela, le Saint-Esprit sera retiré, nous perdrons la lumière que nous avons reçue, et nous ne pourrons pas tenir l'engagement que nous avons pris aujourd'hui de soutenir les serviteurs du Seigneur dans sa véritable Église. Chacun de nous doit s'évaluer. Tout d'abord, nous avons besoin de mesurer la profondeur de notre reconnaissance d'être membre de la véritable Église de Jésus-Christ. En son lieu, nous avons besoin de savoir par le pouvoir du Saint-Esprit de quelle manière nous pouvons mieux respecter les commandements. Nous savons par la prophétie que non seulement l'Église vraie et vivante ne sera plus retirée de la terre, mais qu'elle deviendra meilleure. Notre vie sera transformée en mieux si nous faisons preuve de foi en vue du repentir. Nous rappelons toujours le Sauveur et essayons encore davantage de respecter ses commandements. Les Écritures contiennent la promesse que, quand il reviendra vers son Église, le Seigneur la trouvera spirituellement préparée pour lui. Cela devrait nous donner de la détermination et de l'optimisme. Nous devons faire mieux. Nous le pouvons et nous le ferons. Aujourd'hui en particulier, il serait sage de décider de soutenir de notre foi et de nos prières tous ceux qui nous servent dans le royaume. Je suis personnellement conscient du pouvoir que possède la foi des membres de l'Église, de soutenir ceux qui ont été appelés. Au cours des dernières semaines, j'ai ressenti avec force les prières et la foi de gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent que comme quelqu'un d'appelé à œuvrer par les clés de la prêtrise. Le président Monson sera béni par le soutien de votre foi. Ainsi, des bénédictions seront de même déversées sur sa famille du fait de votre foi et de vos prières. Tous ceux que vous avez soutenus aujourd'hui seront soutenus par Dieu à cause de leur foi et de la vôtre. Chaque membre aura des occasions de les soutenir par le service rendu au nom de Dieu. Cette Église est une grande force pour la bénédiction de ses membres et de tous les habitants de la terre. Par exemple, l'Église a effectué une œuvre humanitaire remarquable de par le monde. Tout cela est possible grâce à la foi qu'ont les membres et des amis. Que Dieu vit et que le Seigneur souhaite secourir tous les gens qui sont dans le besoin, qu'il peut toucher par ses serviteurs fidèles. En outre, c'est par cette Église et les ordonnances qui s'y trouvent que les bénédictions du pouvoir de scellement peuvent atteindre des êtres qui sont dans le monde des esprits. L'Église est vraie et vivante, et touche même les humains qui ne vivent plus. Si vous avez la foi pour trouver les noms de vos ancêtres et aller à la maison du Seigneur pour leur offrir les ordonnances par procuration, vous soutenez cette œuvre, cette grande œuvre dont le but est d'offrir le salut à tous les enfants de notre Père Céleste qui viennent au monde. Je vais parler de quelques-unes des raisons que j'ai d'être reconnaissant d'avoir une Église vraie et vivante. Ensuite, je proposerai quelques domaines dans lesquels je vois que l'Église se prépare pour le retour du Sauveur. Et pour finir, je rendrai mon témoignage de la façon dont j'en suis venu à savoir que nous sommes dans l'Église vraie et vivante. Je suis surtout reconnaissant de mon expérience du pouvoir purificateur qui nous est accessible grâce aux ordonnances accomplies par le pouvoir de la prêtrise. J'ai ressenti le pardon et la purification par le baptême accompli par des personnes ayant l'autorité. J'ai senti la brûlure dans ma poitrine qui n'est possible qu'à cause de ces paroles dites par des serviteurs de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Je suis aussi reconnaissant des bénédictions accordées à ma famille. C'est le pouvoir de scellement et la connaissance que nous en avons qui change et transforme notre vie de famille ici-bas et notre espérance de la joie de la vie de famille dans le monde à venir. La pensée et l'espoir que je peux avoir des relations éternelles mettent à traverser les épreuves de la séparation et de la solitude qui font partie de la condition mortelle. La promesse qui est faite aux fidèles de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est que nous pourrons avoir des relations et une expansion des familles dans les éternités. Cette assurance change pour toujours et pour le meilleur, toutes nos relations familiales. Par exemple, je suis à une étape de ma vie où les grandes distances m'empêchent de bien connaître mes petits-enfants. Et quand le moment sera venu, mes arrière-petits-enfants, il y a aussi des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se marier et de devenir parents, qui ont les mêmes aspirations que moi d'être d'une façon ou d'une autre proche de la famille. Grâce au rétablissement de la connaissance de la famille éternelle, nous avons une plus grande espérance et plus de bonté dans toutes nos relations familiales. Les plus grandes joies de cette vie sont centrées sur la famille, comme elles le seront dans le monde à venir. Je suis extrêmement reconnaissant de l'assurance que j'ai que si nous sommes fidèles, la même sociabilité que nous connaissons ici dans cette vie sera pour toujours avec nous dans le monde à venir. dans une gloire éternelle. Je peux voir des preuves du perfectionnement prophétisé de l'Église. Par exemple, dans mes voyages et mes rencontres avec des membres de l'Église, je vois qu'il y a une amélioration régulière dans leur vie. Du fait de leur foi et de leur obéissance simple, l'expiation est en train de changer et d'édifier les membres. Je me trouve souvent dans des réunions avec des gens manifestement humbles à qui il est permis de faire des leçons et de donner des discours qui ont en eux un pouvoir semblable à celui donné à Lehi et à Néphi, les fils d'Élaman. Vous rappelez le récit. Et il arriva que Néphi et Lehi prêchèrent aux Lamanites avec une si grande puissance et une si grande autorité, car du pouvoir et de l'autorité leur avait été donné, afin qu'ils puissent parler, et ce qu'ils devaient dire leur était aussi donné. Je suis certain que le souhait répété du président Clay se réalisera. Il a enseigné que tous les gens qui se joignent à l'Église pourront rester membres à part entière s'ils sont nourris de la bonne parole de Dieu. Je l'entends encore dire que les derniers mots qu'il dirait à la fin de son service seraient « Maintiens, maintiens, maintiens dans l'Église ». Ces paroles continuent à vivre dans la direction du président Monson et en nous tous quand nous qualifions pour avoir le pouvoir d'un Lehi et d'un Néphi de nourrir de la bonne parole de Dieu. Je suis certain que vous continuerez, comme moi, à être plein d'étonnement devant les humbles saints des derniers jours qui font de l'enseignement au foyer, des visites d'enseignement et parlent à leurs amis non-membres avec un pouvoir toujours plus grand. Pendant des années, nous sommes rappelés les paroles du président McKay. Chaque membre est un missionnaire. Je suis certain que le jour vient où, grâce à la foi des membres, nous verrons inviter un nombre sans cesse croissant de personnes à entendre la bonne parole de Dieu, des personnes qui entreront ensuite dans l'Église vraie et vivante. Il y a une autre admiration dont je suis certain qu'elle se produira. Partout dans l'Église, les parents cherchent des manières à de fortifier, de protéger leurs enfants contre les maux qui les entourent. Dans certains cas, ces parents essayent désespérément de ramener des membres de leur famille qui se sont égarés. Je suis sûr que Dieu récompensera de plus en plus leurs efforts. Ceux qui n'abandonnent jamais s'apercevront que Dieu n'a jamais abandonné et qu'il les aidera. Une grande partie de cette aide viendra de ceux qui sont appelés à œuvrer dans l'Église. La volonté de tendre la main aux autres augmentera de sorte que beaucoup, comme le jeune évêque Thomas Monson, trouveront par inspiration des manières pratiques d'inviter et d'encourager les membres qui, pendant un certain temps, pourraient ne pas reconnaître les bénédictions que Dieu en réserve pour eux. Aujourd'hui encore, le président Monson se rappelle les gens au secours desquels il s'est porté quand il était leur évêque. Mon espoir est que nous aurons tous la certitude que Dieu nous aidera à aller vers les autres et à remener auprès de nous ceux que Dieu veut que nous amenions avec nous quand nous rentrerons auprès de lui. Une autre amélioration que je vois venir dans le royaume est le désir et la capacité d'aller vers les pauvres et les nécessiteux. J'ai vu une augmentation étonnante parmi les membres de l'Église, de la compassion pour les victimes de catastrophes naturelles dans le monde. Dans les notices nécrologiques, je vois des familles demander que les dons soient envoyés au Fonds perpétuel d'études ou au Fonds humanitaire de l'Église. Joseph Smith, le prophète, a vu cette évolution merveilleuse. Il a dit que quand une personne devient vraiment convertie, elle veut parcourir la terre pour prendre soin des enfants de notre Père Céleste. Cela commence déjà à se produire parmi plus de membres de l'Église. Ce qui est remarquable, messieurs, c'est que la pratique de donner aux nécessiteux s'étend à ceux qui ont moins eux-mêmes et qu'elle ne semble pas dépendre des difficultés économiques du moment. Pour moi, cela prouve que l'expiation agit de mieux en mieux parmi les membres. Mon témoignage que nous sommes dans l'Église vraie et vivante a pris naissance dans mon enfance. Un de mes plus anciens souvenirs est celui d'une réunion de conférence tenue dans une salle louée, dans un hôtel. Il y avait un homme qui parlait, dont je ne connaissais pas et ne connais toujours pas le nom. Je savais seulement que c'était quelqu'un qui avait été envoyé dans notre petit district dans le champ de la mission par quelqu'un qui détenait la prêtrise. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais j'ai reçu un témoignage puissant avant d'avoir 8 ans, avant même d'avoir été baptisé, que j'entendais un serviteur de Dieu dans la vraie Église de Jésus-Christ. Ce n'était pas la salle louée, ni la taille de l'assemblée qui était petite, Mais c'était le témoignage certain que j'avais la bénédiction à ce moment-là d'être à une réunion de la vraie Église. Quand dans mon adolescence, je suis allé m'installer avec ma famille dans les pieux organisés de l'Église, j'ai senti pour la première fois le pouvoir des collèges à la prêtrise et d'un évêque aimant. Je m'en rappelle encore et je peux toujours ressentir l'assurance que j'ai éprouvée à me retrouver dans un collège de prêtres à côté d'un évêque et de savoir qu'il tenait les clés d'un vrai juge en Israël. Ce même témoignage m'est venu tôt dans ma vie, lors de deux dimanches, un à Albuquerque au Nouveau-Mexique et l'autre à Boston au Massachusetts. Dans chaque cas, j'étais présent le jour où le district devenait pieux. Des hommes d'aspect apparemment ordinaire que je connaissais bien étaient appelés comme présents de pieux. J'ai levé la main ces jours-là, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Et le témoignage m'a été donné que Dieu avait appelé ses serviteurs et que je serais béni par leur service pour les avoir soutenus. J'ai fait l'expérience de ce même sentiment de nombreuses fois à travers toute l'Église. J'ai vu au cours des jours et des mois qui ont suivi leur soutien que ces présents de pieux étaient amenés à être à la hauteur de leur appel. J'ai vu le même miracle dans le service du président Monson quand il a reçu l'appel à présider comme prophète et président de l'Église et à exercer toutes les clés de la prêtrise sur la terre. Il a reçu, en ma présence, des révélations et de l'inspiration, ce qui me confirme que Dieu honore ses clés. J'en suis un témoin. Ce sont les clés d'une prêtrise qui est, pour employer les termes du Seigneur, sans commencement ni fin. Je vous rends mon témoignage solennel que nous sommes dans l'Église vraie et vivante de Jésus-Christ. Votre Père Céleste répondra à vos prières ferventes pour le savoir personnellement. Vous pouvez avoir le témoignage que les appels que vous avez soutenus aujourd'hui sont de Dieu. Mieux encore, vous pouvez savoir que dans cette Église, on accomplit des ordonnances qui peuvent purifier les âmes et lier sur terre et dans le ciel, comme cela se faisait du temps de Pierre, de Jacques et de Jean. Ces clés et ces ordonnances sont maintenant rétablies dans leur plénitude par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, et ont été transmises par ses successeurs. Jésus est le Christ. Il vit. Je le sais. Je témoigne que Thomas S. Monson est son prophète vivant. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est vraie et elle continue à vivre. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, à la fin de cette merveilleuse session de conférence, nous t'exprimons notre gratitude pour l'occasion que nous avons eue de soutenir notre prophète Thomas S. Monson et ses conseillers, et tous les prophètes voyants et révélateurs qui nous guident et nous aident à conduire notre vie dans la bonne direction. Nous sommes si reconnaissants pour toutes les nouvelles autorités générales qui ont été appelées ce matin. Nous te prions que tes bénédictions reposent sur nous tous, tandis que nous partons de ce centre et que nous soyons protégés et que nous puissions méditer ce qui nous a été enseigné et que nous puissions trouver le moyen de les inclure dans notre vie pour agrandir notre désir de faire ce qui est juste, d'être de meilleurs parents, de meilleurs membres de l'Église, de meilleurs serviteurs, de meilleurs voisins, de meilleurs amis. Nous te prions que tes bénédictions soient sur notre famille, que tu les protèges et que tu nous aides à comprendre l'importance de ton évangile, que nous puissions vivre éternellement en famille en ta présence. Pour toutes ces choses, nous t'exprimons notre reconnaissance et nous prions au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
This has been the first session of the 178th.
Vous venez d'assister à la première session de la 178e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon.